RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, le dimanche matin, vous le savez, à la radio, mais bienvenue aussi à vous qui nous écoutez peut-être sur votre smartphone, le podcast de quoi je me mail, disponible dès le vendredi, et puis en vidéo, bien sûr, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01tv.com et sur les box. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec tout à l'heure un gros dossier cybersécurité. Comment se protéger des logiciels malveillants et faut-il avoir peur des ransomware? Vous savez, ces rançongiciels. Peut-on attraper des logiciels malveillants sur son smartphone, sur ses objets connectés? On en parlera avec un vrai spécialiste qui sera avec moi pendant pratiquement 30 minutes. On évoquera ce sujet passionnant. Benoît Grunenwald, qui est expert en cybersécurité auprès DZ, sera mon invité. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag DQJMM, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci encore une fois d'être là et bienvenue. Et on commence par le club de la presse IT. Emmanuel Paquette est avec nous.
Bonjour François.
Bonjour Emmanuel, journaliste à l'Express et en renfort. On est ravis d'accueillir Fred Bianchi, Frédéric Bianchi.
Salut.
Qui est juste dans le studio à côté sur BFM Business. Merci.
Exactement,
Frédéric d'être avec nous.
J'ai pas fait un gros voyage.
Malgré tout, il savait pas dans quel studio aller.
Bah, je me suis quand même trompé. Ouais.
Et
ouais,
voilà,
ouais.
Ça c'est des habitudes. Tous les deux, grâce à vous, on va commenter l'actualité de la semaine. On va parler de tous anti-Covid tout à l'heure. On va parler aussi du fiasco Kibi. Hein, ce système de SVO2 qui a même pas franchi l'Atlantique en fait et qui était qui se cantonnait en fait à des petites vidéos qu'on pouvait voir sur son smartphone et qui a jeté l'éponge. Mais on va commencer par évidemment cette actualité dramatique et l'assassinat de ce professeur il y a quelques jours. Évidemment, les réseaux sociaux sont pointés du doigt à juste titre. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, Emmanuel et Frédéric. Est-ce qu'on peut légiférer les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux vont entendre en fait ce que le gouvernement français peut dire? Et surtout, est-ce que ça aura des conséquences? On se rend compte aujourd'hui que malgré tout, on a l'impression que les réseaux sociaux sont à l'écoute de ce qui se passe, non, Emmanuel?
Oui, ils sont à l'écoute et puis surtout, ils ont quand même réagi parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu quand même deux temps. Le premier, c'est une vidéo qui a été postée donc, par le père de famille sur les réseaux sociaux, appelant les autres parents d'élèves en fait, à se mettre avec lui en fait, hein, pour faire pression contre le professeur d'histoire-géographie.
Donc, alors, il n'y avait aucune menace hein, sur cette vidéo.
Alors, il n'y avait pas de menace. Mais elle n'était pas illégale. En revanche, il traitait quand même le professeur de voyou. Donc, ça tombait sous le coup de la diffamation. D'ailleurs, le professeur a porté plainte pour diffamation. Donc là, en fait, on est dans un cadre légal qui a été respecté. Puis, il y a eu le deuxième temps, c'est-à-dire la décapitation. Et là, les photos qui ont été... en fait, véhiculé par Twitter et Facebook. Twitter l'a enlevé très rapidement, avant même, de ce que j'ai compris en tout cas, avant même d'avoir été saisi par les autorités françaises. En revanche, Facebook a mis beaucoup plus de temps, on m'a dit quasiment 8 heures pour l'enlever. Donc, alors qu'aujourd'hui, il y a un système de partage qui a été mis en place depuis les attentats de 2015. Il y a un système au niveau européen, dans lequel en plus les pays sont représentés. Dès qu'il y a un élément comme ça terroriste qui est sur les plateformes, c'est partagé avec toutes les plateformes américaines, au niveau d'un centre, dont j'ai oublié le nom au moment où je vous parle, mais c'est le centre du contre-terrorisme, voilà, et dans lequel il y a des représentants de plusieurs pays européens.
C'est-à-dire qu'ils analysent la photo, c'est et instantanément, les métadonnées de cette photo sont envoyées, et elle est retirée de tous les supports.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, si Twitter le voit, il le donne dans ce cadre-là, et
d'accord.
Du coup, Facebook, Snapchat, TikTok, ils sont tous au courant qu'il y a ce contenu qui circule.
Et donc, instantanément, en théorie, la photo disparaît de tous ces réseaux.
C'est-à-dire, Twitter le retire,
oui.
Et les autres, après, ils ont l'information pour pouvoir le retirer. Mais est-ce qu'ils le font après? Il y a des fois un peu de temps de latence.
Très bien. Donc, mais cette vidéo en fait, de ce parent d'élève qui était vindicative mais pas condamnable en quelque sorte, il y en a des milliers tous les jours, des vidéos de gens qui attaquent d'autres personnes, qui sont vindicatives, etc.
Oui. Oui.
La question est de savoir si on peut légiférer sur ces vidéos. C'est ça aussi le problème.
Alors déjà, bon, il faut dire que les plateformes font quand même quelque chose. Hein. Par exemple, Facebook, ils ont aujourd'hui 15 000 personnes à temps plein. Alors après, il faut voir dans quelles conditions, hein, mais qui scrutent ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui enlèvent les contenus.
Mais 15 000 au niveau mondial.
Au niveau mondial.
Voilà.
Oui, donc, c'est bien de le dire. Donc on peut dire que c'est insuffisant, mais déjà, c'est un premier pas. Et ils disent
en fait, on ne se rend pas compte, parce que 15 000 personnes qui surveillent Twitter,
oui,
ça semble beaucoup.
Même, je crois qu'ils sont peut-être un petit peu plus. Moi, j'avais vu 40 000 avec les sociétés auprès de qui ils sous-traitent.
Oui, alors le problème, c'est qu'après,
en
effectivement...
En tout cas, 15 000, 40 000, on est dans le même ordre de grandeur.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, c'est insuffisant. Il y a une société qui s'appelle Netino, qui est en France, qui est spécialisée dans la surveillance des réseaux sociaux pour un petit peu voir ce qui s'y dit. Chaque année, ils rendent un rapport sur la haine en ligne, sur les réseaux sociaux, ce que ça représente, le nombre de messages, les volumes, tout ça.
Et, ce rapport, il y a d'autant plus d'intérêt là en ce moment.
Voilà, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est vraiment fondamental. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on ne mesure pas la volumétrie, la quantité de messages, de vidéos postées sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général, mais rien que sur Facebook. Le patron d'Itino dit qu'il y a 500 000 commentaires postés chaque seconde. Chaque seconde. Ça fait 43 milliards par jour. Ils estiment que dans ces 43 milliards par jour, il y a à peu près entre 10 et 13% de messages haineux. Alors, on peut débattre à l'infini, qu'est-ce que c'est un message haineux ? Est-ce que c'est de la diffamation ?
Tout ça est très subjectif,
voilà, c'est très subjectif. Il n'empêche qu'il y a quand même, malgré tout,
on va dire des messages négatifs.
Des messages négatifs, des messages diffamants, des contenus qui vont hystériser des populations.
Ouais, mais 10% parce que sur 43 milliards, c'est énorme.
C'est colossal. C'est colossal. Donc aujourd'hui, il y a une grosse attente, on le voit, de la part des citoyens. Ils sont repris par les politiques sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Est-ce qu'on peut légiférer par rapport à ce contenu-là. Il y a eu en début d'année la loi Avia, on s'en rappelle, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui avait entraîné une levée de boucliers des défenseurs de la liberté d'expression, sans doute, peut-être à juste titre, hein, sans doute. Effectivement, il y avait des mesures peut-être un peu extrême, mais dans ces mesures-là, il y avait la suppression d'un contenu sous 24 heures. Aujourd'hui, on sait que supprimer un contenu, on l'a vu avec le cas de l'affaire de...
Alors moi, j'avais dit sous une heure, en fait.
Dans la loi, oui.
Dans la loi Avia, c'était sous une heure, en fait.
D'accord, c'était sous une heure.
Les plateformes avaient l'obligation de l'enlever sous une heure, et en fait, ils avaient répondu que c'était impossible, en fait, sous une heure.
Oui, effectivement, parce qu'en fait, c'était sans l'autorité d'un juge. Donc c'est eux-mêmes qui devenaient juges.
Bien sûr.
C'est ça qui posait problème.
Et après, voilà, comment, qui décide s'il faut enlever
telle ou telle photo ? Supprime des contenus sans l'autorité d'un juge. Hein.
Exactement.
Les modérateurs, ils le font malgré tout. Est-ce que c'était attentatoire aux libertés individuelles ? Sans doute un peu. Sans doute un peu, mais c'est vrai que là, on est au nœud du problème entre est-ce qu'on peut tout laisser dire ou est-ce qu'on peut bloquer et limiter cette liberté d'expression ? Et malheureusement, il n'y a pas de solution parce que la loi Avia, en l'occurrence, sur cette occurrence-là, il y a peu de chances que le contenu ait été supprimé. La vidéo, alors oui, il traite le professeur de voyou. En dehors de ça, ça pourrait sembler comme une revendication légitime. Ce professeur a mal agi en classe. Voilà. Moi, je suis un lanceur d'alerte. C'est comme ça qu'il se présente. Je suis un lanceur d'alerte. Je viens dénoncer un fait que je juge... Que je juge immoral, pas bien, voilà. Oui. Il aurait eu le droit, la loi Avia n'aurait pas fonctionné. Donc pour qu'une loi, finalement, elle fonctionne vraiment par rapport à ces messages haineux, il faudrait une loi Avia x10, x1000, où on décide de supprimer un contenu sur la foi de ça ne va pas, c'est dangereux, c'est voilà. Mais évidemment, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une interview, il y a le patron, l'ex-patron de Google qui dit, on lui rapporte un propos, est-ce que c'est vrai, qui dit aujourd'hui les réseaux sociaux sont une boîte d'écho des propos des débiles de la planète, hein, c'est l'expression des idiots de la planète, c'est comme ça, c'est l'expression qu'il emploie, et il va falloir légiférer. Donc l'ex-patron de Google dit, il va falloir légiférer.
Légiférer les idiots, on va avoir du boulot. Hein,
quand même. C'est ça le problème. Donc après, on en arrive toujours au même point, il faut éduquer, il faut apprendre aux gens à modérer peut-être leur passion, mais ça, évidemment, ça prend du temps, si tant est que ça fonctionne un jour. Ouais. Si tant est que ça fonctionne un jour. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont éduqués. Et en l'occurrence, là, on dit, oui, il faut de l'éducation. C'était lors d'un cours. Hein, c'est un professeur, justement, qui a été ciblé, qui faisait justement de l'éducation. Donc, qui appliquait un programme, voilà, un cours sur la laïcité. Donc, c'est vrai que ça paraît aujourd'hui insoluble d'essayer de modérer tout ce contenu de haine qui hystérise, exacerbe les populations et peut conduire à ce genre de drame, comme on l'a vu la semaine dernière.
Emmanuel, pour terminer sur ce sujet, parce qu'on pourra en débattre pendant des heures, mais lorsque le gouvernement français va taper à la porte de Twitter ou Facebook, est-ce que, en fait, les réseaux sociaux qui sont en Californie écoutent la France de manière assez sérieuse, quand même?
Oui, ils l'écoutent, parce que ça peut vite faire tache d'huile un peu partout sur la planète. Ça peut remonter au niveau de l'Europe. D'ailleurs, il y a quand même une directive qui va être en discussion en mois de décembre, qui s'appelle le Digital Services Act, qui va revenir sur la responsabilité des plateformes. Et aux États-Unis, le 28 octobre, sont auditionnés les responsables de Twitter, de Facebook et de Google, justement à ce propos-là, sur leur responsabilité, puisque l'article qui les protégeait, la section dite 230 de la loi américaine, a été en fait, a été cassé par Trump. Et du coup, aujourd'hui, il faut remettre en place un système légal aux États-Unis. Donc, on voit que ce n'est pas que l'Europe, en fait. Mmh. C'est aussi les États-Unis qui considèrent que les plateformes ont un statut un peu trop facile, en fait, hein, de simples hébergeurs.
Oui, oui, oui.
Et qu'il faut augmenter
leur responsabilité. En fait,
ils fuient
leur responsabilité. C'est ça.
Ils ne fuient pas, quand même, parce qu'ils modèrent. Ils essaient de faire des choses. Ce que montrent ces chiffres-là, cette volume.
Oui, mais légalement, ils ne sont pas responsables.
Alors, légalement, ils ne sont pas responsables. Mais si on les rend responsables de ces 500 000 commentaires publiés chaque seconde, les réseaux sociaux, ils peuvent mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas quelles peuvent être.
Ce serait pas plus mal, finalement, qu'ils mettent la clé sous la porte.
Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'il y a aussi, quand même du positif. Là, c'est vrai qu'on est sur l'angle négatif. Il y a aussi beaucoup de positifs sur les réseaux sociaux.
Oui,
et c'est bien,
bien
pour
sûr,
ça qu'il y a beaucoup d'opposition par rapport à ces lois jugées parfois liberticides. Les rendre responsables, est-ce que ça changerait quelque chose sur le contenu qu'on y poste et sur les conséquences que ça a derrière?
Non, mais en revanche, là où Frédéric a raison, c'est qu'ils ont fait des choses, mais dans l'autorégulation. C'est-à-dire ils ont pris les devants en disant, mais nous, on va retirer avec des modérateurs humains ou avec de l'intelligence artificielle. Facebook dit qu'ils enlèvent 94% des contenus haineux avant même leur diffusion sur la plateforme, avant même un signalement. Donc ils disent, ça marche à plein, etc. Mais c'est des chiffres qu'eux donnent sur leurs données, mais en fait, on n'en sait rien,
oui,
il faudrait un audit, en fait.
Oui,
la question, c'est, un, déjà, il faudrait un audit de ces plateformes indépendants pour savoir effectivement si c'est bien fait. Et éventuellement, on va en parler tout de suite, mais des solutions technologiques qui arrivent, des outils pour protéger les internautes.
Alors justement, ces solutions, ça peut être quoi?
Alors c'est ce qu'on appelle, alors c'est un vieux concept qui date de 2012, qui s'appelle le slow web. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il y a deux éléments. Soit on poste effectivement quelque chose, un message haineux, et après il se diffuse très largement. Donc la question, c'est, on peut agir avant que ce discours haineux soit diffusé, mais une fois qu'il est diffusé, on peut aussi ralentir sa diffusion. Et ralentir sa diffusion, ça passe par des solutions technologiques, notamment Twitter, depuis quelques jours, a mis en place un système sur le retweet. Vous savez, le retweet, ça a été créé par quelqu'un, par un développeur qui aujourd'hui dit « on a donné une arme à un enfant de 4 ans » avec le retweet. Donc pour dire, avant de retweeter, maintenant, vous devez lire le contenu, voire le commenter. Du coup, ça ralentit la propagation et la circulation d'informations et ça donne aussi plus de visibilité. Les gens doivent lire, donc un peu plus.
Ça responsabilise un peu plus le retweet en quelque sorte.
Exactement.
Mais c'est simplement informatif. Il n'y a pas obligation de lire le contenu.
Non, il n'y a pas d'obligation pour l'instant.
Donc oui, ça peut un peu ralentir.
C'est ça.
Mais quand on est énervé derrière son écran d'ordinateur et qu'on a envie de balancer, voilà.
De retweeter.
Bon, on cliquera une deuxième fois pour retweeter, mais je pense qu'on retweetera quand même. Ça peut avoir un effet, effectivement, un peu.
Et alors, ce que Thierry Breton disait au niveau de la Commission européenne dans le texte de loi dont je parlais précédemment, c'est de dire les gros comptes Twitter ou Facebook, où ils ont suivi par des millions de personnes, là, il faudrait avoir l'identité de l'individu, parce que quand il va retweeter ou poster quelque chose de diffamant ou de haineux, il va tout de suite toucher beaucoup de gens et ça va amplifier. Donc, il dit, sur certains types de profils, il faudrait que les plateformes aient l'identité pour agir au plus vite auprès d'eux. Bon, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il semble que ça soit une des pistes de la directive européenne qu'on va voir aboutir en décembre.
Allez, on enchaîne avec un autre sujet, toujours de société, alors lié à cette crise épidémique que l'on est en train de vivre. La nouvelle version de Stop Covid, qui maintenant s'appelle, attention, accrochez-vous, tous anti-Covid. Voilà, si vous ne vous en souvenez pas, bah, vous ne pourrez pas la télécharger. Voilà, une nouvelle version qui est censée corriger les défauts de la précédente. Une nouvelle version aussi qui essaie de se racheter une virginité. Hein, Fred, Emmanuel, qu'est-ce qui change par rapport à la précédente version?
Je n'ai pas vu de gros changements personnellement. Elle sera potentiellement.
Bah déjà, c'est pas le même titre. Le titre, c'est beaucoup plus sympathique. Alors, tous anti-Covid, c'est sympa quand même.
Le nom est plus engageant. elle sera potentiellement à court ou moyen terme. On pourra scanner des QR codes dans des établissements, dans des restaurants, par exemple. Donc, ça permettra de faire du contact tracing plus facilement, hein, plutôt que d'écrire son nom, un numéro de téléphone. On n'est pas. Voilà. Donc. C'est à peu près la chose que j'ai vue de nouveau sur cette application.
Il y a des statistiques aussi, c'est-à-dire qu'on a maintenant des statistiques de contamination, etc., qui sont mises à jour régulièrement.
Oui, exactement. Ouais.
Le problème de cette application-là et des applications en général, hein, on a là, alors celle-là en particulier, elle a été très peu téléchargée, hein, je crois que c'est 2,5 millions.
Ouais. Cela dit, hier, avec la nouvelle version, il y a eu un moment, un embouteillage sur les serveurs.
Oui, il y a eu un pic,
C'est ce qu'a dit Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique.
Il était content, d'ailleurs.
Il était content, je ne sais pas s'il était content. Mais
en tout cas, ça prouve que c'est un peu plus populaire qu'avant.
C'est ça.
Ce sont le problème de ces applications-là. Et alors, on a beaucoup de critiques en disant la technologie, c'est gadget, ça sert à rien. La preuve, ça n'empêche pas les contaminations. Ces applications, elles servent à rien. C'est un peu plus compliqué que ça. Ces applications, elles servent. C'est un outil de plus dans la lutte contre le Covid, pour prévenir, pour rappeler aux gens qu'il faut respecter les gestes barrières. On rappelle, hein, pour recevoir, il y a très peu de notifications. Pourquoi ? Il faut rester à moins d'un mètre d'une personne pendant 15 minutes. À côté de qui ? Là, on est à plus d'un mètre, François et moi. Donc là, si tu as le Covid, je ne recevrai même pas de notification parce qu'on est à plus d'un mètre. Bon, un peu plus de 15 minutes, par contre. Donc, elles sont très peu efficaces. En fait, il faudrait peut-être réduire le temps et la durée de proximité entre deux personnes.
Ensuite, moi, pour vous dire, excuse-moi, je te coupe, mais moi, je l'ai installé depuis le tout début de la première appli Stop Covid. Je n'ai jamais eu aucune notification comme quoi j'avais été en contact avec quelqu'un dans mon entourage.
Qui était,
alors oui,
Bluetooth, il faut que ça fonctionne.
Mais alors, c'est sur iPhone et visiblement, il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire que techniquement, cette application marche moins bien visiblement sur iPhone que sur Android, parce qu'on sait que le système d'exploitation d'Apple est très fermé et qu'Apple n'autorise pas tout ce qu'on peut faire en fait sur un smartphone Android.
Oui. Voilà. Mais on se retrouve encore une fois, comme sur le débat précédent, au cœur entre deux problématiques, sécurité contre liberté. On a voulu que cette application, ces applications soient le plus respectueuses de nos données personnelles. On comprend pourquoi, hein, évidemment. Mais comme on ne donne aucune donnée à ces applications, elles ne servent finalement pas à grand-chose. Elles pourraient servir à tracer, à savoir vraiment où on contamine.
C'est-à-dire l'équation est irréalisable.
C'est toujours la même équation, finalement, avec ces outils technologiques. Une application efficace, ce serait une application dans laquelle, dès qu'on est déclaré positif, dès qu'on a un test, l'application le sait automatiquement. Mais ça, évidemment, ce serait pas acceptable.
Et
une application qui nous géolocaliserait aussi, dont on saurait où on est, où sont les malades, où on contamine. Voilà, ce serait une application donc, qui serait jugée liberticide, mais qui serait efficace parce qu'on saurait où les gens se contaminent. Aujourd'hui, on parle des clusters. Les clusters, ça représente moins de 10% des contaminations en France. Ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui sont contaminés, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Une application efficace, ce serait de permettre de suivre ces gens et de savoir où les gens se contaminent pour mener des politiques sanitaires efficaces. Mais là, encore une fois, c'est pas possible. Déjà, Stop Anti-Covid, il y a eu beaucoup de levées de boucliers en disant « Attention, le Bluetooth, ça peut-être permettre de vous géolocaliser, des choses comme ça. » Alors que c'est pas le cas, à ma connaissance. Donc, on se retrouve avec une application qui sert à faire un peu d'information et d'envoyer une notification tous les deux ans en disant « Attention, vous avez peut-être approché quelqu'un. » Donc, c'est un peu inutile, mais bon, ça sert à remobiliser les gens sur les gestes barrières.
Et puis, Emmanuel, on n'a pas choisi la solution logicielle qui était poussée par les GAFA, les Google, les Apple, etc.
L'idée, c'était un souverainisme français, c'est-à-dire d'avoir sa propre technologie et pas de dépendre effectivement d'Apple et de Google.
Ça, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on l'a bien fait ou pas,
Alors, le souverainisme en soi technologique, ça peut être une bonne idée, mais quand on se trouve totalement isolé au niveau européen et que du coup, l'application n'est pas compatible avec les autres, ça pose un problème.
C'est-à-dire que dans les priorités, est-ce que c'était le souverainisme qu'il fallait mettre en premier par rapport à l'efficacité.
Mais je pense qu'ils avaient peur d'être attaqués sur le côté, si on avait pris Google et Apple. Voilà. Donc, ils ont anticipé ça. Du coup, ils ont fait un choix technologique. En revanche, deux petits points rapides. Je pense que là, peut-être que l'application a deux chances. Alors, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, mais ils peuvent surfer sur la deuxième vague. C'est-à-dire que là, on est en plein dedans.
Oui, c'est sûr.
L'application arrive là.
Oui, à point nommé.
Oui, elle arrive au bon moment. La première est arrivée en juin, après la première vague.
Donc, ça, voilà. Et le deuxième point que j'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux, c'est que dès que quelqu'un l'installe, c'est tweeté quasi automatiquement en disant je viens d'installer Stop. Excusez-moi, tous anti-Covid, faites comme moi, etc. Donc il y a une espèce de viralité sur les réseaux sociaux qui a l'air de se faire. Voilà. Mais bon, on verra.
On verra bien. On va parler un peu de streaming maintenant avec un service que vous ne connaissez peut-être pas, sauf si vous habitez aux US et que vous nous regardez de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit de Quibi. Quibi qui a coûté énormément d'argent. Je crois que c'était 2 milliards.
1,7 milliard.
Ouais. Voilà. 1,7 milliard qui partent en fumée
en 6 mois.
Ouais. Emmanuel. Alors, exactement. Qu'est-ce que c'est Quibi et pourquoi ça s'arrête?
Alors, Quibi, ça a été cofondé par Jeffrey Katzenberg, qui est, pour ceux qui connaissent, un des fondateurs de DreamWorks SKG. Donc, c'était le K de SKG. Le S étant Spielberg et le G David Geffen pour les musiciens.
Et c'était aussi celui qui a relancé Disney à la fin des années 80 avec toute la série de films à succès, alors que Disney était au fond du trou. C'était quand même quelqu'un qui connaît
la création de
contenu. C'est lui qui a lancé Aladdin, le Roi Lion, tout ça. C'était le père un peu de tout ça.
C'était Shrek, en fait. Le gros succès de DreamWorks, ça a été Shrek. Donc c'est vrai que c'est quand même une figure. Et Meg Whitman, donc c'était l'ancienne dirigeante d'eBay, l'ancienne dirigeante d'IBM. Donc ils se mettent ensemble pour créer un service de vidéo à la demande très courte, 4 à 5 minutes, pour qu'on peut consulter dans le métro quand on a quelques minutes à perdre, et avec comme cible plutôt des adolescents, mais avec un prix assez élevé, hein, 7,99$ par mois, quand Disney Plus était à 6,99$, et au bout de 7 mois, quasiment personne ne l'a utilisé, et la société a commencé à brûler énormément de cash, hein, pas loin de 1,7 milliard qui était gaspillé.
Mais ils ont décidé... que le pitch, c'était aussi de mettre des super productions, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que les productions qu'il y avait, c'était pas des vidéos YouTube faites sur le coin du bureau.
Spielberg, qui devait proposer du contenu.
Il y avait du vrai contenu très qualitatif qui était diffusable à la télé ou sur Netflix.
Oui, avec encore une fois le petit format.
Voilà, petit
minutes,
format.
Mais effectivement, ouais. L'équivalent, en fait, c'est Black Pills en France, qui a fait notamment, aujourd'hui, on le voit, ils sont sur Netflix.
De Xavier Niel. Hein.
Voilà, exactement. Alors, ils n'ont pas réussi tout seuls, ils sont associés avec Netflix. Notamment, il y a une petite série sur le bondage, hein, pour ceux qui voient ce que c'est, voilà, dont on a beaucoup parlé il y a un an. Et Quibi, justement, a essayé de se vendre à Netflix, Apple, etc. Mais personne n'en a voulu, donc voilà, ils ferment leurs portes.
Voilà. Et que vont devenir tous ces contenus qui ont été produits que personne n'a vu?
C'est une bonne question. Hein. Alors, soit ils vont les mettre sur YouTube, peut-être, en accès libre. Ouais. Mais oui.
C'est clair. Hein. Ouais. Et c'est le premier mort, en fait, oui. Peut-être d'une longue série qui ne fait que commencer d'acteurs de streaming aussi, non?
C'est possible.
Oui, Frédéric. Sans doute. Il va certainement y avoir des morts ou des fusions ou des rachats, des choses comme ça, parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être abonné à 5-6 plateformes de streaming comme on a aujourd'hui. Il y a Salto qui sort en France cette semaine. Est-ce qu'on va lâcher 40€ par mois pour avoir Salto, Netflix, Disney? Voilà. Bon, c'est vrai que.
Si on aime le foot, il faut rajouter Téléfoot.
Ouais, le foot, voilà, ça commence à faire beaucoup sur le plan financier. La Quibi, c'est vrai que c'était un beau projet, une grosse levée de fonds, des gros noms. Ça semblait quand même un peu le projet marketing, genre on a fait une croix, vous savez, là, et on dit, alors là, il y a un trou parce que ça correspond à une demande marketing potentielle, c'est-à-dire à savoir de la mobilité et du streaming. Il n'y a rien qui propose vraiment quelque chose qui corresponde. On y va. Sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que... Il y a une alternative à Quibi, c'est YouTube, finalement. Des petits contenus.
Bien sûr.
Hein, 5-10 minutes, on va sur YouTube. Et la force de YouTube par rapport à Quibi, c'est que c'est gratuit. Donc, arriver sur du petit contenu, même avec des noms prestigieux, même avec du Spielberg comme ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait une attente autour de ça. C'était cher quand même, hein, Emmanuel le rappelait. Il y avait une version moins chère, mais avec de la pub. Ça aussi, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est un peu bizarre.
Quand on propose un abonnement à 5,99$ avec pub, 2$ de plus si vous voulez supprimer la pub.
Ouais, c'est un peu
j'ai de la pub. Bouge paye, mais ouais, les deux, voilà, c'est
puis,
un peu...
Tu disais que YouTube était le concurrent de ce service, mais il y a aussi Netflix, tout simplement, parce que Netflix, tu as des programmes qui sont beaucoup plus longs, mais tu commences, par exemple, dans le métro, à te regarder 10 minutes, t'arrêtes, reprends plus tard, en plus, l'appli Netflix est super bien faite, dès que tu la relances, ça repart où tu t'es arrêté, donc finalement, c'était une fausse bonne idée, ces petits programmes courts.
Alors, ce que dit Katzenberg, c'est qu'ils ont été victimes du Covid.
Ah oui, ça c'est sûr.
En disant que les gens sont restés confinés, donc on prenait plus le bus, le métro, alors que nous, on avait fait des formats courts pour le bus et le métro, c'est un peu ballot, hein, mais du coup, voilà. Et du coup,
les gens qui prennent le métro et le bus pendant 4 minutes, c'est ça qui est débile aussi. Je veux dire, la plupart des gens prennent les transports pendant plusieurs dizaines de minutes. Ou
20 minutes en moyenne, puisque c'est le nom du journal, voilà, parce qu'ils avaient calculé la durée d'un trajet moyen en métro. Du coup, on pouvait se faire 4 épisodes de 5 minutes. Mais bon, effectivement, le Covid a quand même joué aussi
bien
contre.
Sûr, oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, il a manqué sans doute un programme fort qui devient viral et qui fait connaître la plateforme. Après, on peut se moquer du Covid, mais il n'empêche que 6 mois, oui, il y a évidemment une influence du Covid là-dessus et de la crise sanitaire et économique qui a suivi... par rapport à cet échec-là retentissant. 1,7 milliard cramé, j'ai rarement vu ça.
Et ce n'est même pas arrivé en France. Hein. Ça n'a même pas franchi l'Atlantique. Hein. Voilà. Un mot, ou alors le lancement de Salto. Le Salto, on en a parlé la semaine dernière, hein, Emmanuel. Ça y est, le service est lancé. Avec plutôt des bons retours en termes d'ergonomie. Hein, l'interface est plutôt jolie, visiblement.
Oui, elle fonctionne bien, oui.
Avec un contenu qui est discutable, hein.
Vraiment un prolongement de la télévision, en fait, hein. Donc on trouve tous les contenus de la télévision française avec des exclusivités, quelques exclusivités, une douzaine, hein, d'exclusivités, plus la possibilité de voir des saisons en avance de Captain Marlowe, par exemple, ou de Bulle, pour ceux qui aiment ce type de série. En revanche, pour moi, il y a des gros trous dans la raquette, c'est-à-dire il n'y a pas de manga. Donc pour une population plus jeune,
c'est compliqué.
C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de science-fiction parce que les chaînes françaises ne font pas de science-fiction.
Non, parce que c'est pas vendeur. Hein. Ça ne fait pas d'audience.
Exactement. Il y a un petit peu de fantastique parce que. Mais ça, c'est du catalogue américain. Donc on retrouve du Buffy contre les vampires ou des choses comme ça. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'il y a quand même encore des trous. Alors, c'est un lancement. Il faut attendre de voir aussi parce que Netflix n'avait pas tout non plus au départ. Il faut leur laisser peut-être un peu de temps. Voilà. Moi, je trouve le prix aussi assez élevé, malgré tout, hein, puisque c'est quand même. Pour le prix de Disney+, on a droit qu'à un écran, alors que Disney+, on en a quatre. Ouais. Voilà, et puis il n'y a pas les box compliqués,
non, non, c'est assez cher, je trouve, effectivement. Ils ne sont pas sur les box de DFAI. Ça, quand même, ça paraît rédhibitoire. Alors, ils disent, on y sera à moyen terme. Moyen terme, ça veut dire quoi? Un an, deux ans, six mois? Bon, ça paraît quand même un peu tard. Le contenu est assez vieillot. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'ai regardé un petit peu les plateformes de streaming en France, la plateforme de Canal+, elle fonctionne pas trop mal, mais elle s'adresse plutôt aux plus de 50 ans. Mmh. Voilà, donc peut-être que c'est ce public-là que vise Salto, parce que les jeunes, c'est vrai, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de choses comme ça qui vont les attirer. Donc ce public-là, sauf qu'aujourd'hui, cette offre-là, elle est pour une bonne partie gratuite. Voilà, on se retrouve avec le même problème que Quibi, c'est qu'on va faire payer des choses qui sont aujourd'hui gratuites. Alors même s'il y a du contenu,
oui, on va dire exclusif. Voilà, parce que
il n'y en a pas assez. Et aujourd'hui, moi, je vais sur Salto. Pourquoi? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Et s'il y avait des offres 3 mois gratuites, essayez. Voilà. Là, voilà, on me demande de lâcher 7 euros.
Et puis, juste 6,99. Juste un truc, Emmanuel. Ce projet date de plusieurs années.
Oui.
À l'époque, il avait peut-être du sens, mais depuis des années ont passé. Hein, je pense que ça fait au moins 3 ans qu'on nous parle de Salto.
Ouais, facile. Parce qu'il y a eu des projets avant qu'on ait.
Voilà, exactement. Est-ce que finalement, ça arrive pas un peu trop tard?
Ça arrive tardivement, c'est certain. Après, les homologues de Salto en Allemagne et en Angleterre, ils sont arrivés il y a pas si longtemps que ça, finalement. Hein, donc bon, la France, on est un peu en retard, mais pas plus que ça. En revanche, il y a une chose quand même positive, j'ai essayé un peu de. C'est que pour les férus techno, il se trouve que Salto est disponible sur la TNT. Donc c'est la première fois qu'on a un service interactif disponible
en HBBTV, c'est ça ?
Via l'HBBTV, effectivement. Donc ça concerne quand même à peu près 20% des foyers qui ne reçoivent que la TNT vont pouvoir s'abonner à Salto et donc s'adonner à du.
Mais il faut une connexion internet quand même, hein,
Alors j'aurais posé la question, ils me disent que non. Ils me disent que tout passe par l'antenne râteau de la TNT. Ouais. Alors bon, parce que pour moi il y avait une voie de retour.
Mais bien sûr.
Bah, ils ont l'air de me dire que non, tout passe par la télécommande et la TNT. Alors à vérifier, hein, je veux pas. Oui. Comme je n'ai pas pu l'utiliser.
Ça me paraît bizarre quand même. Mais,
bon, voilà. Mais en tout cas, on va creuser. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permettrait quand même d'adresser un marché qui aujourd'hui n'a pas accès à ce type de plateforme.
Et voilà, un nouveau service de SVOD à la française, Salto, qui a été lancé. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric Bianchi, qu'on retrouve sur BFM Business et qu'on lit aussi sur bfmbusiness.com. Et l'Express pour Emmanuel Paquette. Merci à tous les deux.
Merci.
On va parler de cybersécurité maintenant avec le porte-parole de EZ qui sera mon invité. On va évoquer évidemment tous les sujets liés au ransomware, vous savez, au rançongiciel, etc. Et à la sécurité de votre PC, de votre smartphone et même des objets connectés. A tout de suite pour De quoi je me mail.
RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail.
Un grand merci d'être toujours avec nous. C'est De quoi je me mail. Vous le savez, toute l'actualité des nouvelles techno le dimanche matin à la radio. Et puis bien sûr en version audio sur l'appli RMC sur votre smartphone, sur rmc.fr. Et la vidéo qui vous attend sur 01 TV, la chaîne YouTube de 01 TV ou sur 01nettv.com. On va parler maintenant de sécurité, de cybersécurité. On a tous évidemment l'appréhension un jour d'avoir une arnaque, d'avoir un virus sur son ordinateur. Aujourd'hui, c'est vrai que les différents moyens, en tout cas les différentes manières qu'ont les personnes malveillantes pour arnaquer les gens devient quand même assez importante. Il y a énormément de choses, énormément de menaces. Et on va en parler avec notre invité. Je suis ravi d'accueillir Benoît Gunnenwald. Bonjour Benoît.
Bonjour François.
Benoît, vous êtes expert en cybersécurité auprès d'Izet. Izet qui est on va dire un expert en cybersécurité depuis de nombreuses années. Je crois que vous avez été créé en 1987.
C'est exact, c'est la date à laquelle on a trouvé notre premier virus.
Voilà. On vous appelle aussi Note 32. Hein. Il y a deux noms concernant Izet.
Oui.
Aujourd'hui, c'est plutôt Izet que vous
aujourd'hui, c'est Izet. C'est la marque. Note 32, c'est le premier logiciel qui a été développé il y a de ça plus de 30 ans.
Vous vous rendez compte, 1987. Et déjà, il y avait des virus.
Et déjà, il y avait des virus qui attaquaient les machines.
C'est dingue, ça. Alors qu'il y avait, il y avait Windows, bien sûr, mais on était loin d'un Windows très populaire. Hein. Comme quoi, la cybersécurité, c'est un vieux sujet hein, qui évolue d'année en année. Hein. On le voit, il y a encore, on va dire quoi, 10-15 ans, on avait peur d'attraper des virus sur son ordinateur. On installait des suites de logiciels hein, qui, en fait, protégeaient notre ordinateur. Quelles sont les dates importantes, à votre avis, en termes de cybersécurité ?
Je pense que là, une des premières dates, c'est l'adoption et la diffusion du personal computer, donc du PC. Et à partir de là, on commençait à proliférer les différents éditeurs malveillants également. Et ensuite, on a l'adoption en masse du smartphone. Et ce passage au smartphone, à la mobilité et à l'ordinateur portable ont vraiment modifié à la fois notre façon d'interagir. On n'a plus l'ordinateur dans le salon où toute la famille est là autour, où on se partage des informations sur les disquettes, mais on va avoir des usages qui vont être complètement différents de ceux que l'on pouvait avoir au début.
Les premiers virus s'échangeaient par disquette, finalement, c'est ça. C'était le premier
vecteur d'infection.
Le premier périphérique, on va dire, de stockage. Hein, oui. C'est étonnant. Il y avait aussi cette frayeur de voir des virus qui pouvaient être installés sur des disquettes et qui pouvaient détruire un ordinateur. C'était une légende, ça? Ou est-ce que vraiment, il y avait des virus qui pouvaient détruire des ordis?
Alors, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de légendes sur les différents virus. On pouvait effacer les ordinateurs, on le peut toujours d'ailleurs, on a vu des menaces qui le font aujourd'hui, mais il y a beaucoup de fantasmes quant au virus et quant à ce qu'il est possible de faire.
Oui, à cause d'un virus, on ne peut pas faire flamber un ordinateur, quoi. Il faut pas
exagérer. C'est compliqué. Par contre, on s'aperçoit aussi que les virus qui s'attaquaient aux ordinateurs personnels s'attaquent maintenant beaucoup plus à l'industrie, s'attaquent beaucoup plus à tout ce qui est au final connecté. Donc quand on parle de menaces, on parle de menaces chez soi, bien entendu, mais quand on est dans le milieu professionnel, on le voit, on a énormément d'activités qui nous permettent de protéger les professionnels également.
On va parler d'évolution, évidemment, de ces attaques malveillantes. Aujourd'hui, on évoque beaucoup les ransomware. Est-ce que le mobile aussi peut être une cible pour les pirates? Mais un mot sur Izette quand même. Vous êtes un incontournable de la sécurité. Vous avez une vraie légitimité, en plus, puisque je crois que vous travaillez avec des institutions qui vous font confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes?
Oui, alors en quelques mots, Izette, c'est la première société européenne éditeur de solutions de cybersécurité, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Aujourd'hui, c'est plus de 13 centres de recherche dans le monde entier. On a 2500 collaborateurs et effectivement, dans les références, on équipe notamment, on a le plaisir d'équiper la gendarmerie nationale. Donc tous les postes de travail des gendarmes sont équipés avec Izette. Et puis on équipe également cybermalveillance.gouv.fr, qui est certainement un sujet qu'on abordera quand on parlera de la sensibilisation. Et ensuite, il y a énormément d'entreprises, petites et moyennes. Et notre force, c'est justement de s'appuyer sur un réseau local de revendeurs qui nous connaissent bien et qui vont diffuser Izette auprès de leurs clients. Et ce côté local est très, très important pour nous.
Benoît Grunemwald, Izette, c'est aujourd'hui une grosse part de marché pour le business, on va dire, pour les entreprises. Et les particuliers dans tout ça, ça compte pour vous?
Alors, les particuliers, c'est un peu moins de la moitié de notre chiffre d'affaires. C'est énorme. Et en fait, je pense qu'on a un petit déficit de notoriété parce que justement, on s'appuie sur plus de 4000 revendeurs en France et dans les DOM-TOM qui font le travail pour nous d'aller convaincre et apporter finalement la meilleure des solutions à leurs clients sans pour autant en faire la publicité.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on travaille sur cette notoriété pour faire en sorte que le particulier et l'entreprise soient beaucoup plus au courant de notre existence.
Il y a du monde en plus, on va dire, sur le marché des acteurs de la cybersécurité. Alors évidemment, il y a les McAfee, il y a les Norton qu'on ne présente plus. Microsoft aussi, avec sa suite qui est installée dans Windows depuis pas mal d'années. Comment expliquer à tous ceux qui nous regardent qu'aujourd'hui, avoir une suite comme la vôtre, en plus de celle de Microsoft, par exemple, si on a Windows, est aujourd'hui indispensable? Quels sont les atouts?
Alors, on l'a dit, on existe depuis plus de 30 ans maintenant. On a une technologie qui est à la pointe, qui est vraiment au top. Nous ne faisons que cela. Et ça aussi, c'est un point important parce que nous sommes vraiment des spécialistes de la cybersécurité. Et des tests indépendants montrent parmi les suites de sécurité, celles qui sont soit gratuites, soit incluses dans le système d'exploitation par défaut, par exemple, ne sont pas aussi performantes que les nôtres.
Mais c'est mieux que rien, on va dire. Ce qu'installe Microsoft aujourd'hui évite quand même quelques dégâts, non?
Oui.
Malgré
tout, c'est mieux que rien. Et pour autant, pour faire face aux menaces actuelles, on s'aperçoit que mieux que rien, c'est pas assez. Et quand on pense à tout ce que les cybercriminels peuvent récupérer et ou influencer sur notre machine, il faut quand même à un moment passer à un stade supérieur et avoir une protection qui soit beaucoup plus complète, notamment dans une suite de sécurité premium. On va inclure un gestionnaire de mots de passe, on va inclure un navigateur sécurisé et on va s'intégrer dans l'écosystème.
VPN aussi ?
Le VPN n'est pas aujourd'hui une fonction que l'on propose pour différentes raisons, notamment parce que quand on souhaite se protéger, le VPN, ce n'est pas forcément la première brique que l'on va mettre en place.
Oui, alors que vous avez des concurrents qui le font, hein, qui proposent des VPN dans une offre un peu globale. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est la différence entre la suite gratuite et la suite payante. Parce que c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour télécharger des suites de logiciels de sécurité qui sont complètement gratuites. Quelle est la différence en fait entre la version gratuite et la version payante ?
Alors la version gratuite, bien souvent, a un business model qui est différent d'une version payante. Oui. On sait que sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et donc la plupart du temps, il y a des conditions générales et des conditions d'utilisation qui font que certaines données peuvent être récupérées par l'éditeur qui va vous offrir un service gratuit. Donc en fait, le service n'est pas vraiment gratuit.
Par exemple, EZ, si je télécharge la version gratuite, qu'est-ce que vous allez récupérer comme données ?
Alors nous n'avons pas, et justement, ça c'est la différence, nous n'avons pas de version gratuite.
Vous n'avez pas de version gratuite ?
On n'a pas de version gratuite, uniquement des versions payantes dans le respect du client, de ses données personnelles et de sa protection. Et effectivement, le client paye pour un service et contre ce service, il a ce à quoi il s'attend.
C'est pour ça donc que vous ne proposez pas de version gratuite.
C'est-à-dire exactement.
Vous estimez que le modèle économique de ces suites de logiciels, c'est le payant pour que les particuliers gardent leurs données, en fait.
Exactement.
C'est ça ?
Et la sécurité de la donnée et la privacy, donc ce qui importe aux clients, c'est bien effectivement de pouvoir payer pour ce service pour être sûr que les données qui vont arriver chez nous soient anonymisées et surtout ne soient pas réutilisées en termes marketing.
On le disait tout à l'heure, dans les années 90-2000, les principales menaces étaient les bons vieux virus qu'on recevait par mail ou par périphérique de stockage ou par Internet finalement, qui pouvaient donc prendre les commandes de la machine. On voit que ça existe toujours, ça, mais on en parle beaucoup moins. En fait, toutes les personnes malveillantes qui se sont intéressées au numérique ont trouvé des parades et sont allées sur des terrains qui sont parfois très intéressants, même au niveau du bon sens et de l'intelligence, hein, parce qu'il y a de l'intelligence derrière tout ça.
L'ingéniosité. Énormément d'ingéniosité.
L'ingéniosité, bien sûr, la malice, en quelque sorte. Quelles sont les grandes étapes qui ont fait qu'on est passé du virus aujourd'hui au ransomware, par exemple ?
Encore une fois, ce sont les usages. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, on avait peu d'appareils photo numériques, eh bien, aujourd'hui, on en a tous un à minima sur notre smartphone et on va stocker, par exemple, ces informations sur notre ordinateur personnel ou sur notre smartphone. Et donc, quand le ransomware arrive, il nous met dans une position délicate en nous disant « si tu ne payes pas, je ne te rends pas l'accès à tes photos ». Et on sait tous que ça n'a pas de valeur financière, mais ça a une valeur sentimentale énorme. Et du coup, le cybercriminel joue sur ce biais-là. Et effectivement, quand on avait des disquettes, des ordinateurs fixes à la maison, on avait aussi moins d'appareils photo numériques. Donc du coup, le chantage était beaucoup moins facile et avait beaucoup moins de sens. De même, lorsque le cybercriminel nous amène à lui dévoiler contre notre volonté nos identifiants bancaires, il y a de ça 10, 20 ans, ça n'existait pas. On recevait nos comptes par courrier, on allait voir notre interlocuteur à la banque, on se déplaçait, on avait le téléphone. Aujourd'hui, ça se fait majoritairement par Internet.
D'accord. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des faits divers d'actualité avec des ransomware qui attaquent de grandes sociétés, avec parfois des conséquences catastrophiques. Un ransomware, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et en quoi ça peut faire de gros dégâts ?
Un ransomware, le rançon logiciel, comme on l'appelle en français, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Parce que la plupart des solutions de sécurité efficaces, payantes, détectent la majorité des rançons logiciels. Mais pour pouvoir arriver à introduire le rançon logiciel dans le système d'information, donc que ce soit un ordinateur chez soi, son smartphone, beaucoup de rançons logiciels également fonctionnent sur les smartphones, eh bien, il faut avant tout amener l'utilisateur ou rentrer dans le système d'information pour aller mettre le rançon logiciel. Notamment si on prend un exemple d'une agglomération qui est dans le sud de la France, ils se sont fait pénétrer par leur système d'information. L'attaquant a regardé ce qu'il y avait de disponible, il a récupéré des informations de manière discrète, et une fois qu'il a fait ça, il a enclenché le rançongiciel. Et donc,
Il pompe toutes les données pour en faire une sauvegarde.
C'est ça.
En quelque sorte.
Oui.
Et après, il appuie sur un bouton et il ferme
l'accès.
En fait, il ferme l'accès aux données pour tous les ordinateurs.
Complètement. Et de là, la direction des systèmes d'information sont pieds et poings liés et ne constatent qu'ils n'ont plus accès à leur serveur, à leurs données, au logiciel de paye, etc. Et donc, le rançongiciel est la partie émergée de l'iceberg. Et le cybercriminel va faire en sorte de contacter l'entreprise ou l'agglomération ou l'entité qui a été prise en otage pour lui demander une rançon. Et cette rançon va être de deux types. Le premier type, c'est « payez-moi et je vous redonne accès à ces données », ce qui généralement ne se fait pas, en tout cas, on n'est pas encouragé, parce que payer une rançon, c'est alimenter le business. Et puis ensuite, on n'est pas sûr de récupérer ces données parce qu'elles peuvent être corrompues et où le cybercriminel, on discute avec un cybercriminel, donc on n'est pas sûr de sa bonne foi finalement. Et si on ne paye pas parce qu'on est bien préparé et que l'on a de quoi restaurer, remettre le système d'information.
Oui, parce que le béaba, là, c'est de sauvegarder en fait toutes les données sur un autre serveur, autre part.
Complètement.
Au cas où,
de le déconnecter pour éviter que le cybercriminel qui est rentré et qui a regardé ce qu'il y avait dans le système d'information n'ait accès aussi également aux sauvegardes. Et donc, si on ne paye pas, comme le cybercriminel a récupéré des informations, parfois des informations personnelles, des données RH, des données sensibles, eh bien, il menace de les divulguer, ce qui va mettre en péril à la fois l'image de l'entité, mais également peut la faire tomber sous le coup du RGPD, donc les règlements européens sur les données personnelles, qui dit que vous, entité privée ou publique, devez faire en sorte que les données personnelles...
On est responsable, en fait, de la sécurité de ces données.
Exactement.
Et là, on est toujours responsable, mais les données, elles sont dans la nature, quoi.
Oui.
Et malgré tout, on peut être condamné dans ce cas-là ?
À partir du moment où les données ont fuité et qu'il n'y a pas eu d'éléments nécessaires et suffisants pour assurer leur sécurité, effectivement, ouais, on peut être condamné. Mais là, c'est la CNIL qui juge.
Vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire si ça arrive ? On parlera tout à l'heure des particuliers, mais une entreprise qui est victime de rançongiciel, qu'est-ce qu'elle doit faire à partir du moment où son ordinateur est inaccessible ? Vous dites qu'il ne faut pas payer, mais est-ce qu'elles ont le choix de ne pas payer ? C'est ça la question. Si elles n'ont pas de sauvegarde, il y en a qui payent, on le sait.
Complètement.
Alors ça ne se sait pas.
Ça ne se dit pas.
Ça ne se dit pas, mais il y en a qui payent.
Ça se négocie. Je dirais qu'en fonction de votre taille et de la criticité, déjà, il faut faire appel à un professionnel. Parce que si on s'est fait attaquer par un ransomware de manière réussie, c'est qu'on a un problème de cybersécurité. Et donc, il faut faire appel à des professionnels qui vont venir analyser, vérifier s'il y a effectivement peut-être des bouts de sauvegarde ou s'il y a moyen de déchiffrer. Parfois, les cybercriminels commettent des erreurs. Et on a vu, dans certains cas, la possibilité de récupérer les données sans payer parce que la clé qui permettait le déchiffrement était disponible à tel ou tel endroit et qu'on arrivait à récupérer les données.
Vous faites ça vous aussi ? C'est-à-dire que vous êtes sur la prévention, vous, en fait, hein, finalement, avant que ça arrive. Mais quand ça arrive, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour essayer de dépatouiller des entreprises qui sont dans
cette situation, complètement. On s'appuie sur des réseaux d'experts parce que dans la cybersécurité, on l'a dit, on a énormément de confrères dont
bien sûr,
le terme
c'est un réseau,
est antivirus,
en fait. Ouais.
Mais on a aussi énormément d'acteurs qui vont faire que cet écosystème fonctionne, et notamment, c'est ce que l'on appelle la réponse à incident. Donc nous, on participe à la réponse à incident. Il y a des sociétés dont ce n'est que le métier et on va s'appuyer sur eux pour piloter le projet. Et nous, on va amener des réponses techniques, des analyses de virus, des analyses de code, vérifier où et comment discutent les différents attaquants. Et grâce à ces informations techniques, on va aider le pilotage de la réponse à incident. Et c'est ce que l'on a fait notamment conjointement, par exemple, avec Microsoft, pour faire en sorte qu'un réseau de botnets qui commençait à envoyer des ransomware soit réduit dans son activité. On s'est associés avec les forces de l'ordre, Microsoft, et on a fait en sorte que le réseau soit... en anglais, disrupted, c'est-à-dire qu'il soit mis à l'arrêt.
D'accord. Parce que ce sont des botnets qui diffusent les rançongiciels la plupart du temps. Comment ça, comment ça, je ne sais pas moi, une société, comment est-elle contaminée par un rançongiciel ?
Alors, il y a
c'est toujours
moyens,
le même scénario mais... ou...
Alors, disons qu'il y a un certain nombre de scénarios types. L'un des plus fréquents, c'est le phishing, c'est-à-dire l'email d'hameçonnage envoyé à une personne dans l'entreprise qui va cliquer, installer un logiciel.
Sans s'en rendre compte.
Sans s'en rendre compte. Et puis surtout, pas forcément malveillant. Et c'est là où la suite de sécurité va faire son office parce qu'elle va regarder comment fonctionne le logiciel et aussi avec qui le logiciel discute et est-ce qu'il a un comportement suspect. Et donc, ça, c'est le premier moyen. Et ensuite, il y a également des failles, des ouvertures, des portes ouvertes. Notamment, vous avez un prestataire de service à qui vous allez laisser accès pour pouvoir travailler, qui travaille à l'extérieur. Et ce prestataire de service va lui-même peut-être se faire infecter ou alors va mettre un login et un mot de passe trop simple sur un VPN. Et dans ce cas-là, on va pouvoir, le cybercriminel va pouvoir y accéder.
Qui est responsable dans ce cas ? Est-ce que c'est le prestataire de service ?
Ça, c'est l'analyse au moment de la réponse à incident qui va effectivement démontrer les différentes responsabilités. Je pense que quand on est une entreprise et quand on est dans cette situation-là, cette analyse arrive plutôt a posteriori.
Bien sûr, après avoir éteint tous les incendies.
Exactement, et peut-être quand on commence à discuter de cyberassurance et de qui va payer. Mais effectivement, quand on est dans la réponse à incident, la première question, c'est de trouver l'origine et surtout de refermer cette origine. Parce que si on restaure tout comme avant, mais qu'on n'a pas trouvé comment étaient rentrés les attaquants, ben finalement, peut-être que l'on remet la porte d'entrée qu'ils ont utilisée.
Benoît Grunenwald, est-ce qu'on sait combien d'attaques ransomware il y a chaque année dans le monde ? On a une idée ou pas ? Ou est-ce que c'est un sujet tabou ou secret ?
Alors, tabou, peut-être pour certaines grandes entreprises ou certains acteurs qui ne souhaitent pas le divulguer, notamment pour le coût du RGPD et des conséquences que cela pourrait avoir également sur leur image, tout en sachant qu'on a quand même vu que quand une entreprise communique activement et de manière responsable, eh bien les conséquences sont vraiment minimisées et parfois même, elle en sort grandie. Justement pour la qualité de la gestion de la crise. Ensuite, il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui ne se déclare pas comme tel. Et du coup, il est très compliqué d'avoir des statistiques réelles sur le nombre d'attaques. L'ANSSI, donc l'agence gouvernementale française qui gère ce type d'incident sur les grandes entreprises, a, elle, noté une forte recrudescence des ransomware.
On parlait des sociétés, mais les particuliers sont aussi visés par les ransomware ?
Oui, mais pas de manière aussi ciblée que celle que peut être une entreprise, parce que le particulier, on va plutôt compter sur l'effet de masse. C'est-à-dire qu'on va se dire, ce particulier, une tranche des particuliers, a un système d'exploitation qui n'est pas à jour, cela me permet de rentrer, et du coup, je vais envoyer en masse soit un email d'hameçonnage, soit directement une attaque, parce que je peux rentrer chez lui, et dans ce cas-là, je vais compter sur l'effet de levier.
Quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui nous écoutent pour minimiser en fait ces attaques, au-delà du fait d'installer une suite de cyber, enfin de
une suite de sécurité.
De sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des best practices, on va dire ?
Oui, il y a quand même des éléments qui sont importants. Si on est un particulier notamment et que l'on fait des sauvegardes de ses machines, de son ordinateur, c'est de bien penser à faire une sauvegarde sur un disque dur externe, par exemple un média movible, et de le déconnecter une fois qu'on a fini sa sauvegarde et de faire une rotation. Par exemple, on fait une sauvegarde sur un disque dur, les semaines paires, on prend ce disque dur et on l'emmène chez une personne de confiance et on récupère chez la personne de confiance un autre disque dur sur lequel on va refaire une sauvegarde. Et si on change comme ça, on fait une rotation toutes les semaines, on a déjà un premier élément qui est très important, c'est la possibilité d'avoir une sauvegarde et de repartir avec ces données, les photos par exemple, et puis tous les éléments dématérialisés.
Alors c'est un peu fastidieux, c'est clair. Mais
c'est une gymnastique.
C'est le prix de la tranquillité, on va dire.
Fastidieux, ça ne l'est pas trop. C'est une gymnastique, il faut avoir, c'est une habitude. Il faut également avoir une bonne hygiène dans ses mots de passe. Parce que si vous avez un login, donc votre adresse email, et un mot de passe à la fois trop simple et ou que vous réutilisez sur tous les sites, on sait que certains sites ne sont pas très bien sécurisés et que dans le darknet, dans le marché noir des cybercriminels, se vendent des logins et des mots de passe pour permettre à ceux qui vont les utiliser par la suite d'accéder à des comptes. Si vous avez le même login et le même mot de passe sur votre adresse de messagerie, sur votre compte réseau social, A, B, C, sur votre compte pour accéder à Amélie.fr par exemple, et bien à partir du moment où un de ces comptes est corrompu, et bien en fait, le cybercriminel a accès à l'intégralité de vos comptes et ils ont développé des logiciels qui vont tester le login et le mot de passe sur le site A, le site B, le site C, le site C.
Donc ils n'ont même pas besoin de le faire manuellement, ça se fait automatiquement.
C'est complètement automatique.
D'accord, ils peuvent traiter des milliers de personnes et d'emails quasi en temps réel, en fait.
Complètement. Et le problème, c'est que si l'adresse email est le premier élément corrompu, eh bien, vous pouvez aller sur tous les autres sites, dire « j'ai perdu mon mot de passe », on vous renvoie le lien pour réinitialiser le mot de passe dans l'adresse email, et là
on est cuit.
Potentiellement, on a perdu l'accès à toute sa vie numérique.
Mmh. J'installe votre suite, mmh. D'accord ? Donc, il y a une période d'essai. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que c'était gratuit, parce que c'est vrai qu'il y a une période d'essai.
Complètement.
Et puis après, on paye un abonnement. On a souvent reproché à ces suites de sécurité qu'elles ralentissaient, en fait, les ordinateurs, notamment les ordinateurs d'entrée de gamme, pas très puissants, avec pas beaucoup de mémoire vive. Sincèrement, est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce qu'on peut comprendre que ça ralentisse, puisque c'est quelque chose qui surveille de manière perpétuelle, en fait, la machine.
En ce qui nous concerne, on a réalisé cette prouesse technologique d'inclure un certain nombre d'éléments que l'on appelle multicouches qui vont analyser ce qui arrive sur la machine et notamment avec de l'intelligence artificielle, plus particulièrement une sous-catégorie qui est le machine learning. Et donc cette technologie est ancrée dans nos logiciels depuis à peu près 1992. Et donc on évolue depuis 1992, on fait évoluer notre technologie intelligence artificielle pour qu'elle le soit la plus efficace possible et la moins gourmande possible. Et aujourd'hui, on arrive à ce compromis et on a beaucoup de nos clients, notamment dans les administrations, qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Oui, qui ont des ordinateurs qui ont parfois plusieurs années.
Exactement.
Voire plus.
Voilà, ce ne sont pas des start-up qui changent leurs ordinateurs régulièrement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ils nous choisissent, entre autres, pour différentes raisons. Mais ça, c'est vraiment la raison principale, c'est cette légèreté et cette économie de moyens que l'on met à la disposition des clients.
Ceux qui nous regardent et qui ont un Mac, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça a un sens, un intérêt d'installer une suite de sécurité ?
Oui, et même d'ailleurs, comme sur Linux, la gendarmerie, c'est 90 000 machines environ,
sous Linux.
Dont 80 000 machines sous Linux et à peu près 10 000 sous Windows. Et Mac et Linux sont importants dans l'écosystème parce que s'ils ont été pendant très longtemps le porteur sain, c'est-à-dire celui qui n'est pas forcément impacté directement mais qui va pouvoir transmettre le virus.
Et d'ailleurs tous les possesseurs de Mac s'en vantent un peu moins mais en ce moment. Mais c'est vrai qu'au départ ils se disaient non, il n'y a pas de virus sur Mac, il n'y a pas de souci.
Complètement. Sauf que Mac a fait un bond également en termes de notoriété, en termes de vente et d'adoption chez à la fois les particuliers.
Donc c'est de plus en plus la cible des cybercriminels.
Les CSP+. Quand on a un Mac, généralement,
on
est plutôt dans la catégorie CSP+. Et effectivement, les Macs, on le voit, on a fait un rapport trimestriel en début d'année et ensuite qui a suivi après le Covid. Et on voit qu'effectivement, les menaces sur les Macs sont également en évolution.
C'est très intéressant. Alors, il y a aussi un autre chapitre qui est passionnant, c'est les smartphones et les objets connectés. Benoît, aujourd'hui, pour certains d'entre nous, on se sert plus de son smartphone que de son PC. Est-ce qu'il y a véritablement des menaces sur son smartphone ?
Alors, les menaces que l'on va retrouver sur nos ordinateurs, de manière traditionnelle, se déplacent, se dupliquent sur les smartphones. Notamment, on y trouve maintenant des ransomware, on y trouve également des phishing. Parce que lorsque l'on reçoit un email sur son ordinateur, il est finalement, quand on a les bons réflexes, il est finalement assez simple de repérer si c'est un vrai si c'est un email légitime ou pas. On va passer sa souris sans cliquer et voir si le site sur lequel on nous invite à aller est vraiment,
le site officiel
ou pas.
Bien sûr.
Alors que sur smartphone, l'écran est petit, on ne peut pas juste passer le doigt et ne pas cliquer. Donc c'est important d'avoir justement un élément technique, une suite de sécurité sur son smartphone qui va nous faire le garde-fou et nous dire attention, cet email qui est reçu va soit n'est pas légitime pour telle et telle raison technique, soit risque de t'emmener sur un site web qui n'est pas celui qu'il est censé être.
Donc il est important aujourd'hui de sécuriser même son smartphone.
Il est très important de sécuriser
Android,
son smartphone.
Android, iOS, de la même manière.
Alors, sur iOS, c'est différent.
Oui, parce que iOS est très fermé.
Complètement. Et on n'a pas les mêmes moyens d'accéder à iOS que d'accéder à Android, tout en sachant que Android, Google fait énormément d'efforts pour faire en sorte,
avec des mises à jour de sécurité régulières.
Et oui, et l'ajout de logiciels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous protégeons, et dans le monde, on protège 1 milliard d'internautes, en passant notamment par Google Play Store, que l'on protège, et une extension qui est invisible et qui est intégrée à Google Chrome, et pour laquelle, en fait, l'utilisateur lui gratuitement, lorsqu'il télécharge un fichier, eh bien ce fichier est analysé par notre antivirus. Donc 1 milliard d'internautes dans le monde sont protégés par nos solutions.
Sans le savoir.
Sans le savoir.
Ça c'est bien, c'est plutôt positif.
C'est important. Et du coup, ce type de partenariat au niveau technologique, ça nous permet aussi de nous asseoir. On évoquait quelle est la différence entre une suite de sécurité gratuite et une suite de sécurité comme la nôtre. Un partenariat avec Google nous apporte... puissance
des données, bien sûr.
Qui est sans commune mesure par rapport à un petit éditeur.
Dernier chapitre, les objets connectés. On en a de plus en plus, les caméras, les capteurs divers, etc. Les enceintes connectées, là aussi, menace.
Là aussi, menace avec une approche un petit peu différente parce que nous, éditeurs de solutions de sécurité, ne sommes pas capables de développer pour chaque appareil connecté, surtout...
Oui, un soft pour protéger cet appareil.
Bien sûr. Et donc, on va plutôt, et c'est aussi pour ça que la suite de sécurité est importante par rapport à l'antivirus, c'est qu'on va pouvoir, de manière périmétrique, surveiller ce que font les objets connectés pour voir s'il n'y a pas d'activité malveillante, mais également, on va pouvoir également donner des conseils. C'est-à-dire que l'on va regarder l'objet connecté et on va dire, ici, vous avez... une page qui vous demande pour accéder à votre caméra un login et un mot de passe, eh bien, vous avez mis admin, ou vous avez laissé le mot de passe par défaut,
vous devriez le changer.
Et pourquoi est-ce qu'il faut le changer? Parce que les cybercriminels vont... C'est en fait un objet connecté, c'est un mini-ordinateur, tout petit. Et du coup, les cybercriminels vont prendre la main sur l'objet connecté, et comme des objets connectés, des caméras, par exemple, de grandes marques, on va en avoir... des millions répartis dans le monde entier, eh bien, ils vont s'en servir pour aller réaliser des attaques qui vont être compliquées à arrêter parce que cela va venir de plein de points différents dans la planète. Et du coup, il y aura une force liée à ces objets connectés qui sera difficile à contrer.
Benoît, dernière question. On voit l'apparition de logiciels antivirus dans les routeurs maintenant, directement.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est une bonne solution parce qu'au plus près de la menace, nous sommes... meilleur est l'efficacité pour pouvoir combattre. Et notamment, on sort prochainement une version pour Microsoft 365, la suite de sécurité. Et on va au plus près de là où peuvent être les menaces grâce à cela.
Izette, donc, à découvrir, hein, si vous êtes convaincu en tout ça. En tout cas, même si vous ne téléchargez pas une suite de sécurité, attention, vigilance et écoutons les conseils de Benoît Godenval. Merci beaucoup, merci d'avoir été
merci
avec
beaucoup,
nous.
Merci beaucoup, François.
Expert en cybersécurité. Ce De Quoi Je M'Emballe est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain. D'ici là, protégez-vous et portez-vous bien. À bientôt.
De Quoi Je M'Emballe sur RMC et 01 TV.